Radio JV présente chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossier, interview, chronique, rétrospective, quiz. Durant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20e numéro du Player Club. Ce soir, je reçois 4 invités pour faire une rétrospective de la trilogie Mass Effect. On va parler des jeux principaux, on va parler des spin-offs, on va parler des adaptations en comics, en romans, et on va parler de l'avenir, bien évidemment, de la licence Mass Effect. Mais tout d'abord, un petit message pour des événements très particuliers qui auront lieu à la mi-février. Écoutez bien. Radio JV et Radio Kawa débarquent à Paris pour une semaine exceptionnelle. Jeudi 9 février dès 17h, je vous donne rendez-vous avec Alex le serveur et plein d'autres animateurs pour une soirée au bar L'Apéroc Café. Pas de micro, pas de caméra, juste de quoi discuter et boire avec vous. Samedi 14 février dès 17h30, c'est le Player Club Spécial Quiz qui sera en direct de l'école multimédia pour 1h30 de questions jeux vidéo. Le même soir dès 21h, nous serons pour la première fois sur Twitch avec des tournois de Mario Kart 8 et de Super Smash Bros. For Wii U. Enfin, c'est dimanche 15 février à partir de 15h que LOL Japon fera sa première en public, toujours depuis l'école multimédia. Retrouvez plus d'informations sur cette semaine spéciale sur radiojv.com et radiokawa.com. A très vite.
De 21h à 22h, le Player Club.
Et oui, ce jingle a raison, jusqu'à 22h dans le Player Club, on va vous parler de Mass Effect avec donc 4 invités dans l'ordre alphabétique. Je vous présente tout d'abord Azura. Bonsoir Azura.
Bonsoir tout le monde.
Alors toi, tu nous viens de jeuxdepixel.fr où on peut lire des articles, mais on peut aussi écouter des podcasts, c'est bien ça?
Oui, c'est cela. Bon, on est un petit site, mais
oui,
on essaye de faire du bon travail. Et puis,
et bah, écoute,
quand les gens viennent.
On peut même te suivre @lady_azura_ sur Twitter. Et ça, c'est exceptionnel, donc on n'hésitera pas à le faire. Avec nous aussi, notre amie Audrey. Audrey, bonsoir.
Bonsoir.
@katanaspider sur Twitter, mais tu travailles du côté du Lead Games User Research, du labo de recherche où vous expérimentez sur les joueurs chez Ubisoft.
Exactement.
Et donc, les pipettes, les seringues, tout ça, ça se passe bien avec les joueurs, ils se débattent pas trop?
Non, ça va, ils se débattent pas trop, mais nous, c'est plutôt vitre sans teint et on essaye d'éviter de leur parler au maximum, en vrai.
D'accord. Ouais, bah écoute, il faut mettre une certaine distance, justement, entre le sujet et la personne qui expérimente, c'est normal. C'est normal.
Fait.
La science.
Exactement.
C'est bien, parce qu'on va parler de science-fiction ce soir. Avec nous aussi, Merwin. Merwin, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors toi, tu fais des choses sur Internet, je crois qu'on peut te décrire comme ça.
Ouais, je me sens un peu pitoyable, en fait, niveau légitimité, du coup, dit comme ça.
Mais non,
t'aimes beaucoup. On va dire que c'est bien.
T'aimes beaucoup Mass Effect, ton potentiel cœur pour Mass Effect, il est très grand, voilà.
C'est ça.
Et on peut te suivre @Merwin the Witch sur Twitter. Et enfin, The Cat, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vient de pixelspray.fr où tu streams de manière régulière.
Oui, quelquefois, quand j'ai le temps. Un petit site de streaming sympathique.
Tu es toi aussi fan de Mass Effect, m'a-t-on glissé dans l'oreillette?
Oui, j'ai un t-shirt Mass Effect.
En ce moment?
Non, pas en ce moment. Désolé.
Je l'ai
pas trouvé.
D'accord. C'est très pratique pour la radio. Oui. Merci d'avoir fait cette précision.
Oui.
Donc, on commence par parler de la trilogie Mass Effect. On commence par parler, figurez-vous, du premier épisode de Mass Effect, développé évidemment par BioWare, sorti en 2007. Il est sorti sur plusieurs supports, pas forcément simultanément d'ailleurs, sur Xbox 360, sur PlayStation 3 et sur PC. La première question que j'ai envie de vous poser par rapport à cette série qui navigue entre le third person shooter et un petit peu d'action RPG, un petit peu de choix dans les dialogues aussi, il y a des interactions comme ça qui sont assez importantes. Qu'est-ce qui vous a séduit le plus dans Mass Effect quand vous avez vu arriver le truc comme ça avec probablement le premier épisode, j'imagine? Est-ce que c'est plus l'univers ou est-ce que c'est plus le gameplay? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Azura,
oui.
Vous voulez prendre la parole peut-être?
Oui, oui, par contre, le premier épisode n'est pas sorti sur PS3 tout de suite. On peut l'avoir sur PS3 que si on achète la trilogie.
Il est sorti beaucoup plus tard, mais il est quand même disponible pour le coup. Ouais, tout à fait.
Ouais, mais ouais, beaucoup, beaucoup plus tard. Hein. Au début, c'était seulement uniquement X360 et PC.
Ouais.
Et donc, pour enchaîner, oui, c'est vraiment l'univers au final qui est attrayant dans Mass Effect. On a vraiment quelque chose de construit et de très très vaste, ce qui fait que le premier épisode en fait est plus une introduction à la suite. Mm-hmm. Et c'est souvent ce qui est reproché, que le scénario est moins développé que les deux autres. Mais bon, après c'est critique personnelle le scénario. On peut pas trop dire qu'il est inutile, parce que lorsqu'on arrive dans l'univers, on a beaucoup de choses à apprendre, aussi bien des espèces, on va dire la géopolitique galactique, savoir qui c'est qui s'aime bien, et tout ce genre de choses. Et puis c'est vrai que le gameplay, c'était un espèce de crossover RPG, action, il faut un petit peu de temps avant de le maîtriser.
Le Luc sur Twitter réagit au hashtag #ThePlayerClub, comme vous pouvez tous le faire en direct sur Twitter, et nous dit parler du gameplay de Mass Effect 1, c'est cruel. C'est à ce point-là, ouais. ça rame, alors, c'est pas c'est bon rigide. À jouer à ce point-là, c'est rigide.
Ouais, disons que c'est pas volé.
C'est beaucoup plus rigide, mais vraiment, quand je dis beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus que le 2 et le 3. C'est-à-dire que, bon, déjà, le gameplay du 1, c'est vrai que pour moi, ça n'a pas été l'argument, hein, ça c'est clair. Mmh. C'est vraiment l'univers. Parce que le gameplay du 1, en fait, il est beaucoup moins, enfin, presque moins action. Tout est beaucoup plus centré sur les points du personnage. Par exemple, si on veut utiliser un sniper, par exemple, c'est la première chose, je me souviens, qui m'a choqué un petit peu au début. Mmh. Si on n'a pas assez de points en snipe, bah tout simplement notre viseur va faire le tour du monde, ça sera impossible. Donc c'est très très beaucoup plus RPG que les deux autres.
Ouais.
Et puis surtout c'est hyper rigide, les animations sont rigides, donc ça pousse un peu, ouais. C'est
clair. Mmh. Pire que ça, il y a des choses qui sont encore au stade très expérimental. Par exemple, le fait de se mettre à couvert, qu'il faut attendre un moment avant que le personnage se mette automatiquement à couvert. En tout cas, sur la version PC, ça fonctionne comme ça. Mmh. Et ça donne droit à des fails monumentaux qu'on voit pas du tout venir. Et rien que pour ça, c'est pas super agréable à jouer, en fait, directement. Je trouve. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé.
Oui, oui.
Ouais. Tu voulais réagir?
Ouais, c'est-à-dire que moi j'ai commencé Mass Effect tardivement, j'ai fait les trois d'un coup, j'ai acheté Mass Effect 1 quand Mass Effect 3 sortait parce qu'il y avait une hype monstrueuse au bureau et tout le monde allait jouer à Mass Effect 3, donc je me suis sentie un peu nulle, et tout le monde disait non mais tu verras Mass Effect c'est génial, moi on m'a surtout vendu l'univers de façon globale, pas forcément le scénar mais l'univers, et je trouvais que ça marchait très bien, moi j'ai pas eu de problème avec le scénar, je crois que c'était justement super cool d'avoir un... Comment dire, vraiment, je trouve que pour dérouler un début d'univers, Mass Effect 1 était très bien. Par contre, quand tu joues à ça en 2012, la comparaison avec tous les third-person shooters qui sont sortis entre 2007, si je dis pas de bêtises, et 2012, elle est dure pour le jeu, quoi. C'est-à-dire que, en plus, moi, j'ai eu la bonne idée de le faire sur Xbox. Alors, sur PC, je trouve contrôle clavier-souris, ça marche mieux, mais à la manette, c'est une horreur. Et du coup, Mass Effect 2 et le gameplay de shoot arrivent et c'est une espèce de bouffée d'air frais parce que c'est jouable, en fait. Parce qu'on parlait des problèmes de cover, c'est horrible. Juste, c'est horrible de se mettre à couvert. Puis en plus de ça, ils introduisent plein de classes hein, qui peuvent faire plein de trucs super chouettes. Mais quand vous commencez à jouer à Mass Effect, vous savez pas ce que c'est un infiltrateur. Je sais pas, il y a eu des sentinelles et des trucs comme ça. Donc au final, moi, je me suis retrouvée à jouer la classe de base. Et puis en fait, c'est loin d'être la mieux.
Oui.
Et vu qu'elle est beaucoup basée sur le shoot et qu'elle a justement des contrôles et une caméra qui sont relativement approximatives, c'est vrai que la comparaison avec un Gears of War ou avec un Army of Two, elle est très très difficile, quoi.
Je vais avoir une question de naïf extérieur à la série, mais justement, ce jeu-là, il est partagé entre son gameplay qui est bien particulier et son univers qui est très attirant. J'aime bien l'idée d'aller explorer, avoir tout cet aspect politique, tous ces personnages, toute cette histoire qu'il peut y avoir autour de Mass Effect, ça m'intrigue en soi, mais le gameplay qui est à la fois donc du third-person shooter, mais en même temps, on doit micromanager, on doit un peu décider ce que font ses coéquipiers, pour moi, ça me paraît un peu rébarbatif. Est-ce que je peux mettre le jeu en facile et est-ce que je peux un peu écarter cet aspect là pour pouvoir jouer à Mass Effect, me faire les Mass Effect, plus pour apprécier vraiment l'histoire, l'univers, etc., plutôt que pour devoir me fader un genre de jeu qui en soi ne m'intéresse pas vraiment. Ou est-ce que c'est vraiment trop central?
Ah, clairement.
Azura voulait réagir?
Oui. Ouais, donc clairement, même en normal, hein, le jeu est pas très difficile. Uh-huh. Même limite, pour mettre du challenge, faudrait passer en difficile. Enfin, j'ai pas eu de difficulté que j'ai pas upgradé, à mort, j'ai pas fait du level up, ce qu'on fait traditionnellement dans un type RPG. Après, c'est pas vraiment un RPG uniquement en soi. Et puis, il y a que le 1 qui est vraiment dans ce cas-là, les autres sont beaucoup plus tournés action. D'ailleurs, j'ai fait la trilogie en novembre 2014, donc c'est vraiment récent, et c'est vrai que le premier, faut quand même se replonger dedans. D'ailleurs, pour ceux qui jouent sur PC, il y a des modes de disponibles au niveau des graphismes, s'ils ont un peu trop vieilli. Et d'ailleurs, ils sont très très bien faits.
Il y a des packages HD, d'accord, sur sur PC. La sortie, la version PC qui apparemment était critiquée pour quelques bugs, soucis techniques. Le jeu, le premier épisode de manière générale avait des petits soucis, mais apparemment la version PC était encore un petit peu plus poussive. Est-ce que les patchs ont amélioré ça ou est-ce que le jeu reste quand même mes figues, mes raisins sur cet aspect technique?
Franchement, bah forcément, comme on peut dire comme tout portage, il y a souvent des petits problèmes, des bons problèmes. Mais une chose qui n'a pas du tout été arrangée, mais bon, ça touche un peu plus au corps du jeu, c'est il y a des partenaires qui est néant. C'est du néant. C'est horrible. Dire si vraiment tu leur dis pas de faire ça et ça, c'était peut-être voulu en fait. Je sais pas. Peut-être que c'est voulu de que ça soit beaucoup plus tactique, mais ils sont très bêtes, ils sont horriblement bêtes, ils meurent tout le temps, ils se mettent devant toi, etc., ils se placent n'importe comment, donc faut vraiment toujours les surveiller. Peut-être que c'est fait exprès, mais... Vas-y,
mais oui. Ouais.
Et encore, justement, le fait de donner des ordres à ses compagnons est pas super... super agréable. Enfin, et c'est même pas... Ça fonctionne même pas très bien, en fait. Beaucoup de fois voulu dire à certains compagnons « Mets-toi là, fais ça », et en fait, ils sont partis à l'autre bout de la map et je les ai jamais revus avant la fin de la mission. Quoi.
C'est donc, poussif, hein. Ouais, surtout le 1. Très poussif.
Je pense que le problème du gameplay de Mass Effect 1, c'est pas qu'il est compliqué, c'est difficilement accessible, c'est difficile pour des bêtises en fait. C'est-à-dire que c'est poussif de demander à son coéquipier de faire ça, c'est poussif de faire un combo entre deux coéquipiers, c'est poussif de se mettre à couvert, mais au final, le jeu est pas dur en soi, les ennemis sont pas durs à tuer ou quoi, c'est juste des petits problèmes comme ça qui sont parsemés sur le gameplay de shoot qui font que ça devient désagréable en fait.
Donc sur le long terme, sur les 30-40 heures que peuvent durer le jeu, ça peut devenir rébarbatif.
Ouais, j'ai l'impression quand même que moi ce qui s'est passé, c'est que plus t'avances et du coup plus tes armes sont meilleures et plus tu prends le système en main, en fait ça va de mieux en mieux parce que justement finalement ça va mieux quoi. Je pense que c'est surtout les premières heures qui sont un peu rudes quoi.
En termes de vocabulaire, pexer c'est pas forcément quelque chose de super répandu chez tout le monde, ça veut dire?
Ça veut dire que tu en gagnant de l'expérience, tu peux dépenser tes points dans différentes compétences qui te permettent d'avoir plus de facilité. Par exemple, je pense aux soins qui soignent plus vite, par exemple, si je dis pas de bêtises. Le fait de pouvoir résurrecter des coéquipiers, puis le fait que en plus on gagne des nouvelles armes, des nouveaux équipements, des nouveaux types de munitions, tout ça fait que finalement ça rajoute un peu de fluidité bienvenue dans le gameplay de shoot quoi.
Et puis du coup le jeu peut aussi te mettre en face d'ennemis encore plus puissants, encore plus dangereux et te mettre un peu à armes égales par rapport à eux si tu fais bien ton travail de joueur. Vas-y, je t'en prie.
Oui, il fallait quand même parler du Mako, des phases
J'allais en parler. Voilà, c'est horrible. Voilà, spoiler.
La physique est très mal faite, ce qui fait que, en fait, c'est des tests de crash à chaque fois qu'on se déplace avec le Mako sur les planètes pour chercher des ressources, car on peut explorer des planètes dans le premier Mass Effect, mais c'est pas super intéressant. Voilà.
C'est très très vide.
Il y a un ou deux vers de sable, je sais plus quel est le nom, qui viennent de t'attaquer de temps en temps, mais sinon, il n'y a pas grand chose.
Ouais. Donc le Mako, c'est un espèce de petit compromis entre un 4x4 et un tank, hein, en gros, pour pouvoir explorer des planètes et comme tu le disais, récupérer des ressources. Très bien. Ce jeu-là, il commence donc Mass Effect 1, il commence la saga Mass Effect et il commence quelque chose qui sera entre guillemets un running gag dans tout Mass Effect, qui est la personnalisation du personnage, du commandant Shepard ou de la commandant Shepard. Comment est-ce que vous voyez ça? Enfin, globalement, on voit souvent des gens faire des monstruosités sur Internet avec. Est-ce que vous y passez beaucoup de temps, comme on passerait beaucoup de temps à personnaliser son personnage pour un Elder Scrolls, pour un Oblivion, pour un truc comme ça? Ou est-ce au contraire, c'est le truc où vous faites, oh bah écoute, je relève juste les sourcils et puis on passe à la suite? The Cat Pumero. Ouais.
Moi j'avoue que en fait je l'ai fait plusieurs fois, donc j'ai fait plusieurs fois homme en tant qu'homme et en tant que femme. Personnage, hein, pas de moi.
Bien sûr.
Et j'avoue que j'ai pas du tout personnalisé parce que je trouvais que de base c'était les skins collés pour moi. Collait très bien au personnage, donc je trouvais ça suffisant, sauf pour l'épisode 3 où je ne sais pas pourquoi, du 2 au 3, le skin du commandant Shepard femme change vachement. J'ai dû fouiller pour mettre des codes pour que ça soit le commandant Shepard du 1 et du 2.
D'accord.
Mais sinon, de base, j'ai trouvé très très bien.
Très bien. Merwin?
Alors moi déjà la comparaison avec les Elder Scrolls m'a fait rire dans le sens où on passe surtout la plupart du jeu en vue première personne, donc bon dans l'absolu voilà.
C'est vrai mais bon.
Mais
tu peux quand même le personnaliser.
Oui c'est vrai, mais dans Mass Effect, personnellement j'y ai passé du temps, effectivement j'aime bien les skins de base. L'homme j'ai jamais, enfin commandant Shepard homme, jamais pu faire autre chose que le skin de base parce que sinon je le trouve horrible, genre c'est pas possible. je passe un peu de temps quand même sur la personnalisation, ne serait-ce que pour voir son évolution justement au fur et à mesure de la série et c'est tout. Enfin, il y a un côté très agréable à voir un personnage qu'on a un petit peu façonné, évoluer et se confronter à une histoire. Et rien que pour ça, je trouve que c'est plutôt bienvenu.
Quelques petits tweets de réactions, hashtag le player club, le Luc qui nous dit le Mako c'est un tank de 100 grammes qui s'envole pour se cracher dans la crevasse la plus proche.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, il fait des sauts périlleux.
Nathan qui renchérit le Mako, les galères à franchir une pauvre montagne ou passer 5 minutes à faire le tour, smile est triste.
Vas-y. Non, j'ajouterais même que le truc qui était horrible, c'est que si vous êtes un peu complétionniste, vous vous dites je vais faire toutes les quêtes annexes, donc je vais me taper tous les points d'intérêt avec le Mako. Et là, vous arrivez devant un truc avec lequel interagir, on vous dit « Ah bah non, t'as personne dans ton équipe qui a la description suffisante, retourne en Normandie et retape-toi tout avec le Mako. »
C'est ça.
Et non, en fait, c'était pas possible.
Taliboul qui nous dit « J'avais un meilleur souvenir » et qui a un avis contradictoire pour le coup. « J'avais un meilleur souvenir du gameplay du premier Mass Effect. J'ai trouvé le deuxième et le troisième mal dosé et fade. » nous dit-il.
Alors, on casse pas mal le premier là, mais c'est vrai que c'était. Enfin, moi, je l'ai trouvé quand même très intéressant. Et je pense que faire la trilogie Mass Effect sans faire le premier, c'est quand même passer à côté de pas mal de choses. Même
on
si dans
pas.
Le deux, on a une BD qui rappelle le premier, mais c'est pas pareil.
Oui, non,
c'est
pas possible. Bah...
On a. Alors... Précédemment, dans Mass Effect.
C'est ça, oui.
Ouais, alors personnellement, moi j'ai commencé la trilogie par le 2, en fait. Simplement parce qu'on me l'avait offert et qu'on me disait « Ah, c'est trop bien, machin. » Donc en fait, je l'ai pas fait dans l'ordre. J'ai d'abord fait le 2 et après j'ai fait...
T'as le droit à ta petite préquel et pour le coup ça allait quand même au niveau de la compréhension.
Ouais, ça allait quand même. Bah, j'ai passé beaucoup de temps dans je sais plus comment ils appellent ça, mais dans le wiki du jeu pour essayer de comprendre à peu près de quoi il retournait. Mais ça s'est plutôt pas trop mal passé au final.
Il me semble qu'on peut faire des choix dans la BD, en fait. C'est un peu interactif. On peut faire des choix, histoire de un peu choisir. Parce que faut savoir que de base, c'est-à-dire quand on n'apporte pas les sauvegardes, de base, les choix entre les jeux qui se suivent sont horribles.
Oui.
C'est les pires. Donc, c'était assez malin de pouvoir, pendant la BD, si on n'a pas fait le 1, pouvoir faire des choix.
Vu que tu parles des sauvegardes, moi ça me donne envie de parler de Mass Effect 2, mais quand même, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter sur le premier Mass Effect, quelque chose vraiment d'important qui vous semblerait impensable de ne pas citer ici? Je vois que personne ne saute sur l'occasion. Dans ce cas-là, on va passer à la suite. Peut-être Azura, non?
Non, rien à rajouter. Okay.
Moi, je dois dire quand même.
J'ai eu un petit boostement de micro, The Cat.
Juste, on a beaucoup craché, mais Mass Effect 1, c'est mon préféré. Donc j'ai beau dire que c'est assez riche et tout ça, mais je trouve que ça introduit tellement bien, ça donne tellement envie de faire la suite en fait, que c'est mon préféré clairement, c'est celui-là.
Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal, enfin je suis beaucoup plus axé sur le gameplay que sur l'histoire habituellement, avec des contrôles aussi rigides. Si je suis resté dans la série, c'est parce que juste les 30 minutes jusqu'à ce qu'on vous dise oh là là mon dieu qu'est-ce qui se passe à Eden Prime, c'était suffisamment foufou pour que j'ai envie de me taper 50 heures avec le Mako et les contrôles de shoot rigide, quoi. C'est-à-dire que la façon dont s'est introduit tout l'univers, les nouvelles races, puis qu'est-ce qui se passe, et puis aussi découvrir qu'est-ce qui se trame, en fait, finalement, parce que le 2 et le 3, c'est vraiment la suite, mais vraiment le 1, c'est, il est en train de se tramer quelque chose, et tu passes tout le jeu à essayer de découvrir quoi, et je trouve que c'est assez fou, quoi. Parce qu'on a tellement de trucs à introduire aux joueurs, et tellement de trucs qui sont bien travaillés, qui ont un vrai sens les uns envers les autres, que pour le coup, le 1 est, à mon sens, assez inoubliable là-dessus, quoi.
Donc, The Cat le disait il y a un instant, pour Mass Effect 2, on peut reprendre la sauvegarde du premier Mass Effect. Mass Effect 2, donc, est sorti en 2010 sur les mêmes supports que cité tout à l'heure, 360, PS3, PC. Là aussi, comme pour le premier, c'est pas tout forcément sorti en même temps, si je ne m'abuse. Qu'apporte ce deuxième épisode? On est toujours sur ce third-person shooter avec des éléments d'action RPG et avec des choix dans les dialogues qui permettent d'être plus gentil ou plus méchant. Il y a des choses qui changent ou c'est uniquement une nouvelle histoire?
Alors, le gameplay change énormément. On enlève toute cette rigidité. Là, c'est vraiment pratiquement que de l'action. Les points à donner, c'était point par point dans les points de, je parle les points de skills, donc personnage, c'était point par point sur Mass Effect 1. Là, c'est différent, c'est beaucoup moins RPG, c'est moins exigeant, vraiment beaucoup moins exigeant. Mais par contre, niveau du scénario, ça démarre vraiment.
C'est violent. On peut le dire parce que
c'est le début.
Ça commence très violemment.
Ça commence très violemment, voilà.
On peut dire que leur truc, c'est on va t'enlever tout ce que t'aimes bien. Voilà, c'est voilà. En fait, ils commencent vraiment comme ça. C'est tout ce que tu trouves cool et tu l'as plus.
C'est généralement ce que les jeux, qui se basent sur les personnages et qui se basent sur une histoire et sur une narration aiment beaucoup faire justement.
Exactement. C'est
mettre un grand coup de poing dans l'estomac.
Ah là, le coup de poing, il est
violent.
Alors, je vois tout de suite une réaction et vous allez pouvoir réagir à ça parce qu'on a juste effleuré pour l'instant Mass Effect 2. Thomas Aurus, qui n'aime pas beaucoup Mass Effect de manière générale, qui nous dit « Mass Effect 2, un jeu en forme de série télé où chaque quête dure 45 minutes avec une écriture en dents de scie. » Est-ce que pour vous, ça colle à cette description un peu chargée, un peu orientée, dirons-nous?
Alors, oui. On va dire que Mass Effect 2 a un petit souci au niveau du rythme. C'est vrai qu'il démarre fort. On a quand même une baisse de régime à un certain moment parce qu'il faut préparer la fin, qui est une fin exceptionnelle. Ouais. C'est une des meilleures fins du jeu vidéo.
C'est la meilleure fin, je trouve.
Mais enfin, c'est vraiment le gros point noir scénaristique, c'est qu'à un moment, en fait, il y a un gros passage à vide parce que le scénario principal, on va dire, fait une pause sans spoiler. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Ouais. Mais alors, je serais d'avis de dire que là où ça marche, mais alors, je suis tout à fait d'accord. Hein, le scénario est un peu plus plan-plan, mais c'est que étant donné qu'en termes de, pour le coup, du gameplay, c'est quand même beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable, c'est moins insupportable que dans le 1, disons, c'est que finalement, quand on voit le dernier tiers du jeu, qui est complètement fou, hein, j'ai pas envie de spoiler, mais le dernier tiers du jeu, c'est, très honnêtement, moi, c'est en termes de fin de jeu, c'est le truc qui m'a le plus marqué de ces au moins 10 dernières années, ça vaut le coup, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce de montée assez lente, mais de montée en puissance pour une fin qui est juste folle. Mmh. Et à mon sens, ça vaut le coup, quoi. Surtout que du coup, c'est pas si désagréable que ça de faire des trucs qui sont plus juste liés au gameplay, entre guillemets, où il y a quand même moins de gros trucs narratifs, quoi. Je pense vraiment que ils auraient peut-être pu faire mieux, mais c'est pas si horrible que ça.
Merwin voulait réagir.
Oui, et le passage à vide en question, on peut le justifier par justement cette espèce de calme avant la tempête, entre guillemets.
C'est ça, ouais.
Si c'est bien vécu. En plus, moi personnellement, j'ai une préférence pour les personnages introduits dans le 2 que dans le premier. Donc du coup, je me suis pas forcément. Enfin, je sais que à certains moments dans le premier, je me suis un peu ennuyée justement vis-à-vis de tout ce qui est interaction avec les autres personnages. Et là, ça n'a pas été le cas parce que j'ai trouvé les personnages plus intéressants. Après, c'est sûr qu'on sent le côté transition entre le premier. Le troisième, mais pour une transition, je la trouve bien menée.
Je dirais pas transition, je dirais que c'est bien amené et même ça permet de réfléchir, peut-être avoir un autre côté du miroir, sans spoiler.
Ouais. Puis au-delà de ça, vu comment la fin est tournée, alors je vais essayer de pas spoiler, mais la relation au personnage, elle se construit justement pendant tout ce moment où le jeu est entre guillemets un peu plan-plan, hein, comme on disait, où finalement c'est ce qu'on appelle des quêtes de loyauté, donc pour essayer d'un peu mieux connaître les coéquipiers qu'on rassemble dans la quête du 2, et c'est super important pour la fin, en fait. La relation qu'on entretient, alors que ce soit dans le jeu en tant que Shepard ou même nous en tant que joueur, le fait que du coup on s'attache, hein, à ces persos secondaires, c'est la pour, c'est ça aussi qui permet de faire en sorte que la fin elle est aussi puissante, en fait, parce que il faut assigner ces différents coéquipiers à différentes tâches et on a vraiment peur pour eux parce que justement on y tient parce que on a fait ces quêtes de loyauté et qu'on a appris qui ils étaient, on a pu discuter avec eux plus en profondeur, et c'est justement, je pense que ça vaut le coup parce que justement la fin est fabuleuse grâce à ça.
Alors, c'est vrai que
tout le jeu repose sur une préparation, je vais pas trop en dire, mais sur une préparation de quelque chose de la fin. Et si ça se trouve, vous allez manquer un élément de quelque chose et ça va changer, d'une manière horrible, j'ai envie de dire, vraiment horrible, la fin, et vous allez le regretter, mais vous allez pas savoir, sauf si vous cherchez, parce qu'il y a des guides, il y a des millions de guides, mais si vous faites au feeling le jeu, il va se passer des trucs. Vous allez vraiment avoir la fin. Ça va être très dur. Et c'est pour ça, effectivement, elle est forte. Le 2.
Ouais. Quand on dit de se préparer, faut se préparer, quoi.
Se préparer, ouais.
Je vais utiliser une manière de comparer un peu sale, un peu triviale, mais vous regardez les joueurs de Walking Dead avec leur pauvre choix qui au final ramène à la même chose de manière un petit peu ironique, quoi. Enfin c'est quand même apparemment Mass Effect a beaucoup plus d'implications dans ses choix, oui, que l'ont beaucoup d'autres jeux.
Oui. Je pense,
clairement. Ah
ouais. Donc c'est une mécanique là pour le coup qui vaut le coup d'être mise en avant, contrairement à beaucoup de jeux qui disent regardez nos choix construisent l'univers. Ouais, et au final, tu as deux variations du même scénario.
Clairement, il y en a pas deux, il y a des embranchements de partout et surtout vous pouvez avoir un personnage qui va rester soit toute la trilogie, soit un morceau du 1. Ça change énormément, je veux dire, parce que vous allez peut-être vous attacher à un personnage qui reste puis pas. Okay. Ça change vraiment l'expérience. Alors comme tu disais. Sur les Walking Dead où finalement y a un personnage qui meurt mais finalement tu te rends compte que c'était un peu obligé. Alors bon, mais là non, c'est pas obligé. Il y a des fois c'est gratuit, hein, les morts sur Mass Effect, c'est totalement gratuit. Et vous n'allez pas le voir venir.
Je pense à un perso dans le 3 qu'il est alors je peux un peu le 3 mais qui est très difficile de garder, et pour ça il faut faire certains choix dans le 1. Et ça, en général, pour pas spoiler, mais
c'est horrible.
C'est vraiment horrible.
Tout est faux. Du moment où tu t'attaches, et je trouve qu'on s'attache vraiment très facilement au personnage. Du moment où tu t'attaches, il y a des moments qui sont durs. Si t'es un peu impliqué, moi, j'avoue que je suis un petit peu trop impliqué sur les jeux vidéo, sur les personnages. Je m'attache trop. Il y a des fois,
Moi aussi, en gros, à chaque fois qu'il y a eu des moments difficiles, c'était toujours sur ma romance. J'ai eu deux, trois petits soucis à ce niveau-là. Mais le jeu est assez taquin en général. J'ai remarqué qu'il aimait bien viser certains personnages de temps en temps.
Surtout qu'en fait, contrairement à The Walking Dead, où vous arrivez avec un perso qui a déjà un début de caractère et un passé. Donc du coup ses choix sont quand même pas mal orientés par la façon dont il est écrit par les scénaristes à la base. Alors vous avez une marge de manœuvre mais qui est quand même relativement faible. Dans The Walking Dead, en fait, Shepard, il faut le voir comme une feuille blanche en fait, et j'ai vraiment l'impression que ce qu'ils ont voulu faire, c'est vous définissez par rapport à votre interaction à l'autre, la façon dont vous interagissez avec vos coéquipiers. Donc finalement, en fait, les sidekicks, il y a pas de Mass Effect sans les sidekicks, et tout est fait dans le jeu, mais du 1 au 3, pour que vous viviez le jeu à travers eux et la façon dont vous interagissez avec eux. Donc finalement, quand vous les perdez, c'est horrible.
Oui.
Horrible parce que toute la construction du scénario et de Shepard en tant que personne se fait par les coéquipiers. Et c'est pour ça d'ailleurs que toute la phase de recrutement du 2 est super importante, même si je pense que les problèmes de rythme ils sont là et on peut pas les nier non plus. Et c'est aussi ça qui d'un autre côté fait que la fin du 2, au moment où vous voyez entre guillemets qui reste et qui reste pas, où c'est un espèce de moment où vous êtes là avec, moi je me rappelle, j'avais mon coussin en mode dites-moi qu'ils sont tous vivants, et ils étaient pas tous vivants et c'était horrible.
Moi
ils étaient tous vivants.
Non, moi non plus. Et du coup
il y avait un mort aussi.
Oui, et puis surtout qu'en plus de ça, ils vous montrent ça vraiment de but en blanc. Vous voyez qui monte, qui monte pas, puis après on vous fait une espèce de rétrospective, et moi je vois clairement le cadavre de mon coéquipier. Je suis genre,
tu le laisses. Et ça peut aller jusqu'à l'extrême, je dirais rien, mais ça peut aller jusqu'à l'extrême. Hein.
Vu qu'on parle de relations entre les personnages et de la construction de Shepard, Rouge Noir Blanc nous dit, et c'est un peu qu'on n'a pas encore évoqué, vous allez me dire s'il est anecdotique ou pas dans Mass Effect, il nous dit la saga Mass Effect est le meilleur dating sim spatial auquel tu as pu jouer.
Le meilleur dating d'alien, oui.
Voilà. Est-ce que ça a une véritable importance, ou est-ce qu'au contraire c'est simplement à la limite de la side mission qui ne sert à rien?
Ce
serait spoilé, c'est ça?
C'est pas essentiel. Oui, on peut le faire très bien sans avoir aucune romance. Mais je veux dire, on sera toujours. C'est pas obligatoire, mais dans l'esprit, c'est obligatoire. Mais après, dans les cinématiques ou trucs comme ça, il y aura toujours c'est sympa, disons. C'est sympa de voir ça. Et vu qu'on s'y attache énormément au personnage, on va toujours un petit peu en son sens, et puis ça finit que, voilà. Ça se finit quand on se tape une alien avec des tentacules sur la tête.
Non, et puis ça change parfois une ou deux phrases de dialogue, et on voit là toute la subtilité de l'écriture. Je parle des dialogues principaux, notamment.
D'accord.
Mais puis en plus de ça, Mass Effect 2, surtout, il y a même pas mal de quêtes de recrutement ou de loyauté dont on parlait, elles sont pas obligatoire en fait. Donc finalement, Mass Effect, si vous regardez que ce qui est obligatoire, c'est assez court. J'ai envie de dire, la romance, c'est un truc secondaire que vous faites si vous avez envie, comme un peu tout le reste au final.
C'est ça. Après, ça va dépendre énormément du joueur aussi. Certaines personnes vont chercher plus ou moins certains types de choses dans le jeu. Et justement, c'est ça qui fait l'intérêt de Mass Effect, c'est que c'est personnalisable jusqu'au niveau du joueur, en fait. Enfin, on peut tout à fait, oui, voilà, si on est intéressé principalement par l'univers et par l'histoire, on peut tout à fait se concentrer là-dessus. Et si au contraire, on a envie de se donner du challenge au niveau du gameplay, bon, on peut aussi. Et au final, on décide d'en récupérer un peu ce qu'on veut. Et c'est ça que je trouve très intéressant, d'ailleurs, dans la saga en général.
Tout à fait. Sur Mass Effect 2, vous avez encore des choses à ajouter, des choses qu'on n'aurait pas couvert et qui seraient importantes.
Oui.
Alors,
oui. Missions où il faut envoyer des probes sur les planètes. Alors, je sais que j'ai pas beaucoup de gens qui sont de mon avis, mais moi, j'adore ça. J'ai 100% toutes les planètes parce que je trouvais ça trop fun. Mais apparemment, je suis un peu un cas unique. Donc voilà, je voulais en parler parce que moi, j'ai trouvé ça trop cool. Voilà.
Voilà, pas moi.
Tu as simplement trouvé ça rébarbatif d'envoyer des sondes et ça peut se comprendre.
Il y a une blague rigolote avec Uranus, mais sinon, c'est vrai que c'est très rébarbatif. Hein. Je veux dire, bon, c'est pas le Mako quand même, mais bon, c'est vite fait, c'est pas non plus horrible. Je veux dire, si tu veux vraiment accumuler des ressources, c'est vite fait.
Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais bon, j'ai pas trouvé ça. Très intéressant, disons. Voilà.
Non, c'est pas forcément intéressant, mais surtout dans le 2, on voit aussi que le scénario se développe et qu'on a d'autres protagonistes qui rentrent en jeu. Et qui, en fait, le scénario qui pourrait être un petit peu simple dans le 1 trouve vraiment son ampleur dans le 2. Là, c'est mon point de vue.
Ah oui, parce qu'on sent qu'il y a de plus en plus quelque chose d'énorme qui se trame, forcément. Alors, non, ça amène bien.
Et puis bon, il y a d'autres parties, en fait. C'est pas seulement bilatéral. Il y a plus d'acteurs.
Côté Mass Effect 2, toujours autre chose qu'on aurait manqué.
Peut-être les DLC, mais les DLC, on en parlera plus
après.
Tard.
On reviendra après.
C'est à la fin. Ouais.
Exactement. Dans ce cas-là, passons à. Oui, bien sûr, le conducteur est là pour ça. Mass Effect 3 qui est sorti. Attention, accrochez-vous sur Xbox 360, sur PlayStation 3, sur PC et sur Wii U. Toujours par BioWare, le studio reste aux commandes, s'accroche bien. Sorti en 2012, troisième épisode qui donc clôt la trilogie. Et toujours en matière de trilogie de jeux vidéo, on est toujours très inquiet de savoir si ça termine bien, si ça joue bien le rôle d'épisode final. Est-ce que c'est le cas? C'est très lié à la fin, apparemment.
Ouais, disons, le jeu en lui-même, moi, l'histoire, je l'ai trouvé. D'ailleurs, c'est l'apothéose, donc c'est grand. Moi, je trouvais ça grandiose. Après, on va parler de la fin peut-être un petit peu plus tard, sans spoiler, évidemment, mais.
C'est ton avis. Moi, de mon point de vue, Mass Effect 3, c'est 40 heures en tout. C'est 39h30 de pur bonheur et une demi-heure où je suis là genre quoi. Mais, c'est quand même plus de 39 heures juste génial.
Voilà.
Quoi.
Je suis complètement d'accord avec cette idée. Ouais, c'est également
aussi.
Bien.
Azura, tu voulais réagir?
J'ai pas eu de soucis avec la fin de Mass Effect 3 parce qu'en fait, ça, dans pas mal de scénarios de science-fiction, c'est dans ce genre-là. Donc, il n'y a pas de gros problèmes. Puis bon, en fait, ça dépend. Au début de Mass Effect 3, on a un score à gérer en fonction des précédents choix. Mmh. Et en fonction de ce score, on aura plus ou moins de choix vers la fin. Voilà, c'est sans spoiler, en restant le plus large possible, bien entendu. Mais c'est vrai que chaque chapitre, on va dire, le jeu est un peu découpé en chapitres, il se finit en apothéose, ça pète de partout, c'est génial. Il y a des surprises partout.
Il faut savoir que dans Mass Effect 3, on a une unité ou des points, je sais plus comment ça s'appelle, les points
c'est
d'attaque.
C'est pas EMS, un truc comme ça.
C'est ça, voilà, mais en français, je ne sais plus. En fait, c'est des ressources de combat, par exemple. On va avoir des quêtes, et à la fin, peut-être qu'il va y avoir cette race qui va se lier à nous contre les Reapers, les moissonneurs. Ou pas. Alors si il se lie à nous, tant mieux parce que ça fait plus de ressources, plus de points, etc. Mais on sait maintenant, ce qu'on sait pas forcément dans le 3 au final, mais on sait maintenant que les choix du 1 et du 2 influent énormément. Par exemple, si un personnage assez costaud, vraiment costaud, etc., d'une race costaud, meurt dans tel épisode, qui sera pas là dans le 3, vous aurez moins de points et moins d'interactions à la fin, et ça peut changer énormément, même totalement à la fin, parce qu'il y a un élément hyper important, je vais vous donner un petit peu envie d'y jouer, mais c'est hyper important, et en fait, moi, quand j'ai refait la trilogie, je l'ai refaite cette fois pas au feeling, mais avec un guide, j'ai vu tout ce que j'avais raté et tout, et à la fin, je me suis dit, mais on peut faire ça, j'étais trop content, mais il faut faire beaucoup de choses.
Par contre, il y a un truc super, alors il y a un truc que j'ai pas du tout aimé, mais un truc que j'ai trouvé super cool par rapport à justement ces fameuses ressources dont tu parles, c'est que je pense que même en n'ayant pas tenu ça en compte dans Mass Effect 1, et deux, il laisse suffisamment de ressources possibles dans le 3 pour ne pas se retrouver coincé avec la fin qui soit pas là, entre guillemets, la fin parfaite dans le 3.
Et en plus, bon ça on peut y revenir, il y a du multiplayer dans le 3, et plus vous jouez au multiplayer, plus vous avez de points, et ça donne des points pour le solo. Donc il y a toujours moyen, s'il y a des multiplicateurs, il y a toujours moyen de gérer.
Je trouve ça un peu négatif, hein.
Ah ouais. Alors justement, on va attaquer, parce que c'est quand même une des plus grosses nouveautés de ce troisième épisode, c'est le mode de coopératif Galaxy At War, qui se joue donc jusqu'à 4, si je ne fais erreur.
C'est ça.
Ça se passe bien, donc je suppose qu'on est dans la même équipe et qu'on va les squads dans l'espace visiter les planètes.
Ouais. On est sur des maps, voilà.
Voilà.
On est juste sur des maps qu'on a déjà vu dans le jeu, etc. Puis à chaque fois, c'est contre un type d'ennemi. Un type d'ennemi, c'est en général.
Donc c'est des vagues d'ennemis.
C'est des vagues. Mais c'est génial. Enfin, c'est pas génial dans le sens c'est hyper varié, etc. Non, objectivement, non. Subjectivement, ça se base beaucoup sur du fanservice parce que tu vas pouvoir jouer, enfin la race que t'as envie de jouer, tu vas pouvoir jouer un Krogan avec un marteau qui casse tout. C'est super content. C'est très bien, c'est super cool. On a passé des heures, etc. Mais de là à dire que c'est le multiplayer révolutionnaire, non, ça non, c'était très sympa ceci dit.
Moi j'y joue encore.
Il y a encore une question, il y a encore de beaucoup de gens ou pas? J'ai envie de
non, il y a pas beaucoup de gens, mais par contre le truc c'est que sur le long terme, donc il y a un système de micro-paiement sur le multi, et vu que ça a pas mal marché, ils ont fait du DLC gratuit et des add-ons en termes de race, en termes de classe, en termes de map, d'ennemis, enfin ils ont suivi leur multi très 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 longtemps.
Il y a eu quand même du contenu,
Il y a eu beaucoup de contenu qui a été release très très longtemps après la sortie et gratuit du coup, parce que c'était surtout basé sur leur monétisation, parce qu'en fait dès que vous finissez des 10 vagues, donc une mission, vous allez avoir des crédits qui vont vous permettre d'acheter des boîtes dans lesquelles il y a des armes et des équipements, mais si vous voulez vous pouvez acheter de la monnaie avec du vrai argent, et du coup ça leur a fait les ressources nécessaires derrière pour continuer à alimenter le multi longtemps après sa sortie.
Parce qu'il faut savoir que les personnages, en fait, on les débloque. Parce qu'il y a plusieurs races, donc il y a plusieurs races. Et dans ces races de personnages, il y a plusieurs sorts. Donc il va y avoir des mages, les mages, ça, des biotechniques, etc. Enfin, il va y avoir la classe mage, la classe soldat, la classe via pompe, corps à corps. Et ça se débloque, donc soit avec des micro-paiements, soit avec des... plus on joue, plus on a d'argent. Voilà.
Donc le multi casse pas dans son concept
Pas
un canard, mais il est quand même assez chouette si on est fan, si on aime bien, si on veut y jouer. Quelques petites réactions sur Twitter, Taleboul qui nous dit Mass Effect 3 est l'épisode qui punit injustement le plus les nouveaux joueurs de ne pas avoir joué aux épisodes précédents. Azura, est-ce qu'on peut développer un petit peu pourquoi pour le coup
surtout...
on n'a pas par exemple comme dans Mass Effect 2 la possibilité de choisir un petit peu avec un petit récapitulatif d'épisode précédent ou...
Alors il me semble pas en
dans
tout
Mass
cas
Mass Effect 3 non.
Non, il me semble pas, ouais. C'était bien ça. Et surtout, quand on est un joueur féminin, on va dire au niveau relation avec les autres personnages, c'est assez limité, hein, encore plus que si on est de masculin. Parce que au niveau des, on va dire, pour ceux qui sont intéressés par le côté romance, il y a plus de chances de finir lesbienne que hétéro si on n'a pas choisi avant. Parce que si je me souviens bien, il faut faire le 2 pour avoir Garrus, et puis en fonction des choix que le jeu te fait... en gros, c'est une catastrophe si on veut une équipe comme on le souhaiterait, en tout cas.
D'accord, ça c'est super intéressant.
Et aussi au niveau des points que tu cumules, justement, pour avoir les choix à la fin, t'es un peu mal parti parce qu'on te choisit, comme on disait tout à l'heure, les mauvais choix, entre guillemets.
C'est généreux de la part du jeu. Mais du coup, c'est très intéressant parce que ça permet de répondre un petit peu à la question de Powerman, le fait qu'on ne puisse pas, du coup, choisir et que ce soit donné arbitrairement, attribué arbitrairement. Voilà ce qui se passe quand on parle en articulant. Powaman nous demandait, pour les personnes qui n'ont jamais fait de Mass Effect, vous conseilleriez lequel? Évidemment, il vaudrait mieux commencer par le 1 ou le 2 et pas commencer par le 3. Ça semble assez clair pour le coup.
Ils ont voulu le faire parce que de toute façon, le 3, enfin, si t'as pas joué au 1 et 2, tu commences le 3, tu te dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe?
Puis même clair. Mais c'est incompréhensible.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a vraiment le plus gonflé quand j'ai commencé Mass Effect 3, c'est que le début du 3 est pas exactement raccord avec la fin du 2 si vous avez pas fait les DLC. Parce qu'en fait, il y a un DLC qui s'appelle DLC The Arrival, donc l'arrivée, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment c'est ce qui se passe en fait entre les deux épisodes.
Ouais.
Et en fait, le 3 part du principe que vous avez fait le DLC. Donc même moi, en les ayant fait les 3 à la suite, j'avais juste pas fait le DLC. J'étais même en mode mais qu'est-ce que quoi ?
Ouais.
C'est absolument pas raccord. Et en fait, voilà, il part du principe qu'il faut avoir fait le DLC The Arrival. Donc déjà, quand vous avez fait la trilogie, ou du moins que vous avez fini le 2, le début du 3 est un peu perturbant, du moins. Alors je pense que quand on n'en fait aucun, j'ai l'impression que ouais, ça doit être un peu dur, quoi. Je peux pas savoir à quel point ça punit le joueur ou pas, parce que je les ai fait les 3 à la suite, mais déjà que le 3 avec la trilogie, enfin les deux autres dans les pattes, est pas forcément facile à comprendre au début. Ouais, les nouveaux arrivants sur la série, ça me paraît un peu compliqué.
Non, et même, je pense qu'on perd énormément d'intérêt aussi, justement, le lien qu'on a avec les sidekicks et tout ça est vachement essentiel, en fait, à la série. Et si on arrive dans le 3, on sait pas qui sont tous ces gens. Qui sont ces gens? Ils meurent.
Ça n'a pas de sens.
C'est pas intéressant, quoi.
Ça n'a pas de sens de commencer par le 3. Voilà.
Rapidement aussi, sur cet épisode-là, plus que les autres, apparemment, on note des soucis de framerate, donc des soucis de fluidité de l'image, des soucis de caméra, en tout cas sur la release.
Pas sur PC.
Pas sur PC,
PC Master Race.
J'ai vu ça en tout cas apparemment pour des copies de tests qui ont dû avoir pour le coup être sur console, qui avaient en tout cas à la sortie des petits soucis de ce côté-là, donc apparemment on les perçoit pas sur PC, on devrait plus les percevoir maintenant, ça a dû être patché.
Par contre, on a oublié de parler d'un truc un peu inutile au final, vu que tout le monde l'a oublié, c'était les énigmes dans le 1 et le 2 qui ont totalement disparu dans le 3. Elles étaient rébarbatives, c'était des petits casse-têtes afin d'ouvrir des portes, ce genre de choses.
Oui. Mm-hmm.
D'ailleurs, il y a des petits gags dessus, je crois que c'est Garrus qui en parle.
Mon premier indice!
C'est forcément Garrus.
On n'utilise plus d'omnigel pour ouvrir les portes.
C'est ça, de petits mini-jeux qui avaient. Ça n'avait pas de sens parce que bon.
Non, et Garrus, c'était les ascenseurs.
Les ascenseurs.
On discute plus dans les ascenseurs comme dans
on
le.
On n'a pas parlé de ça
comme
dans le 1.
Ouais, mais les ascenseurs, vous savez que là, la blague, c'est que quand ils ont fait leur jeu, ils se sont dit ouais, trop bien des ascenseurs. Par contre, il faut vraiment s'assurer que ce soit pas trop long. Et en fait, comme toute prod qui se respecte, ils étaient à la bourre. Puis quand ils ont mis tout le jeu ensemble, ils se sont rendu compte que leur temps de chargement dépassait à chaque fois les 30 secondes, meilleur des cas. Et c'est comme ça qu'ils ont rajouté les dialogues, les musiques et les trucs comme ça, parce qu'ils se sont rendus compte que les ascenseurs, c'était bien pour pas mettre de loading screen, quoi, d'écran de chargement, mais que ça marchait pas parce que leur jeu était trop lourd pour leur moteur.
Voilà, c'était un petit rajout.
Sauf quand on reste bloqué dans les ascenseurs, ce qui est arrivé déjà dans le jeu, je dis.
Dans la vie aussi, ça peut arriver. Le dépanneur.
Mais là, c'est arrivé dans plusieurs fois dans Mass Effect 1.
Ouais.
C'était assez chiant. Il faut avouer.
Pour charger ta save, ce genre de choses.
Quand t'as pas save.
Les musiques de Mass Effect sont vachement bien.
On a pas parlé des musiques. Alors, faut savoir que c'est pas le même compositeur pour le 3. Ce qui n'est pas si grave, parce que les musiques du 3 sont quand même vachement cool, mais les musiques du 1 et du 2, il y en a, surtout la musique de la dernière mission du 2.
Ah oui, oui.
Quand tu l'écoutes, t'en as gros sur la patate.
Oui.
Azura, oui. Ah,
non, mais toutes, elles sont toutes très bien. Après, il y a le thème de l'homme trouble dans le 2, par exemple, qui est magnifique aussi. Voilà. Il y a aussi Living Earth, il me semble, dans le 3, pardon, qui est mémorable. Il y a aussi celle des Krogan. Enfin, il y a tout un tas de thèmes, en fait, qui restent dans la tête, quoi qu'il arrive.
Moi, j'ai un faible pour le thème de Samara. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais j'aime énormément ce thème.
Pas trop.
Faudra aller voir ça sur YouTube.
Voilà.
Exactement. Du coup, la fin a fait polémique. Je pense qu'on va pas non plus excessivement revenir dessus vu que ça pourrait prendre beaucoup de temps et ça va surtout spoiler à nos auditeurs qui l'auraient pas fait.
Juste savoir qu'ils ont quand même fait une fin, pas alternative, mais une fin extended pour les fans qui n'étaient pas contents.
En gros, ils ont expliqué leur fin qui était peut-être un peu trop ouverte. Voilà.
Ce qui est pas bête.
Mais là, moi, je trouve ça cool de la part de BioWare, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé à vraiment changer la fin. Moi, elle m'a pas convenu, mais je trouve qu'ils ont tenté de faire quelque chose et ils l'ont assumé jusqu'au bout. Quoi. Ils ont pas dit, voilà, les gens râlent, alors on vous refait un nouveau truc comme vous aurez aimé. Alors, ils ont expliqué parce que ça laissait un peu trop de blanc, en fait. La fin laissait un peu trop de blanc. Donc, du coup, ils ont comblé ces blancs-là, mais ils sont restés fidèles à ce qu'ils avaient voulu faire dès le départ, quitte à ce que les fans restent un peu aigris ou sur leur fin. Quoi. Ils sont restés fidèles à eux-mêmes.
D'accord.
Et pour ajouter une petite chose sur le 3, lors de la campagne commerciale du 3, en gros, pour Mass Effect 1 et Mass Effect 2, ils utilisaient que le Shepard masculin. Et pour le 3, ils ont fait appel aux fans.
Oui.
Ils ont fait des votes sur Facebook, il me semble, c'est bien ça, afin de déterminer le physique d'un Shepard féminin.
Ouais.
Voilà. Et après, bon, d'abord, ça a été le physique, puis ensuite la couleur de cheveux.
Après,
ils l'ont utilisé dans des trailers promotionnels. Parce qu'ils se sont rendus compte que les fans aimaient beaucoup le Shepard féminin.
Et en plus de ça,
Shepard féminin, ouais.
Et en plus de ça, si vous prenez la jaquette 360 sur, vous pouvez retourner la jaquette pour avoir soit Shepard féminin, soit Shepard masculin sur votre jaquette.
PC
aussi.
Oui, même sur le style, la steel case aussi, je crois qu'il y a les deux.
Et je trouve ça très très chouette.
Oui, c'est malin ça.
Voilà.
Très bien, du coup on a assez peu de temps mais on va passer assez vite par rapport aux petits à côté. Un à côté quand même important sur toute la série, ce sont les DLC. Il y a du DLC solo, il y a aussi eu évidemment des petits achats multi, on en a parlé pour Mass Effect 3. Est-ce qu'ils valent le coup? Apparemment, vu qu'il y en a un qui fait un trait d'union très important en Mass Effect 2 et Mass Effect 3, j'aurais tendance à répondre oui. Mais est-ce qu'ils valent tous le coup?
Ça dépend,
mais il y en a un. Si vous le faites pas, c'est sans parler du truc qu'on a déjà dit, il y en a un qui va vous dire exactement qui sont, je vais pas spoiler, mais pourquoi les méchants sont méchants et qui ils sont. Et si vous le faites pas, vous aurez à peine l'explication. C'est quand même un petit peu bête, un petit peu embêtant.
On parle de celui du 3.
Oui.
C'est essentiel
peut-être
de comprendre ça.
Oui, donnez le nom du si vous l'avez.
C'est Léviathan.
Léviathan, ouais.
Léviathan, et puis celui qui fait le trait d'union entre le 2 et le 3, on a le nom...
Arrival.
D'accord. Très bien. Et comme ça, on sait... Oui.
Ouais, non, j'allais dire, je pense que les DLC qui valent vraiment le coup, on les a dit, c'est Léviathan, Arrival, mais le Shadowbroker.
Shadowbroker, si vous adorez Yara, il faut le faire.
Et c'est un DLC qui est long, je trouve qu'il vaut son prix pour le coup, et qui est très très bien.
Et on voit Shadowbroker, c'est un personnage qui est toujours dans l'ombre, et c'est super intéressant de le voir, parce que c'est une surprise, une grosse surprise quand même.
Si on l'a pas fait, on est un peu paumé aussi. Genre au début, je l'avais pas fait, je comprenais pas trop ce qui se passait dans le 3, notamment. Donc bon, voilà.
Et après, ils ont fait le fameux DLC fanservice Citadel.
Si on aime pas, c'est du fanservice. Mais je l'ai trouvé tellement mignon. Je vais juste un petit peu. On fait la fête avec tout le monde. Il y a des gens bourrés et tout, mais c'est tellement rigolo. Il y a des missions aussi, mais c'est drôle. Quoi. C'est vraiment. Première fois qu'il y a un peu d'humour, enfin un peu plus d'humour dans Mass Effect, c'est agréable, très agréable.
Il pourrait s'appeler la journée de merde du commandant Shepard, franchement.
C'est rigolo.
Rapidement, il y a aussi eu des petits spin-offs sur les supports mobiles, Mass Effect Gravity sur iOS, qui fait plus ou moins le pont entre Mass Effect 1 et Mass Effect 2, Mass Effect Infiltrator sur iOS, Android et Windows Phone, figurez-vous, c'est possible, et Mass Effect Datapad, qui n'est pas vraiment un jeu, mais plus une application, et qui est aussi relié au mode Galaxy at War, donc le mode coop de Mass Effect 3. Est-ce que, parmi ces trois-là, quelque chose vaut le coup particulièrement? D'accord, ok.
Voilà. C'est sur portable et iOS, voilà.
Ouais, non, c'est pas agréable.
C'est pas intéressant.
Jouer sur iOS.
Ok. Non, mais c'est bon, comme ça, on peut passer directement à la suite. Puisque Mass Effect, ça a été aussi adapté en roman et en comics. Là aussi, est-ce qu'il y avait quelque chose qui vaut le coup? Je crois que parmi nous, il y a des gens qui en ont lu de ces petites choses.
J'en ai lu un peu.
Azur Ra, d'abord?
Adapté, je dirais pas tout à fait ça. En fait, ça complète. Mm-hmm. Parfois, on a des pans scénaristiques, par exemple, le passé de certains personnages. Mm-hmm. Alors, comment il s'appelle? Fan, celui qui est dans le 2, le lézard.
Ah, Tain, non, c'est Tain.
Ouais,
Tain. Je crois pas que ce soit Tain.
Si, il y a un comics qui est basé dessus, par exemple.
C'est pas Féron qui est comment dire, un des personnages justement de Shadowbroker.
Il y a les deux. Par exemple, on revient Homeworld, ça parle des membres de l'équipage. On a aussi le comics sur comment Joker et Joker, que Joker c'est le pilote de Normandie. Ouais. Tout le monde s'en souviendra.
Oui. Excellent. Alors, il faut savoir un truc sur le comics, c'est que dans Mass Effect 3, il y a l'édition collector, il y a un petit comics qui vous est offert, je crois que c'est le 3, hein. Il y a un petit comics qui vous est offert, alors vous lisez un petit, à la fin, mais vous pouvez acheter la suite aussi, si vous voulez vraiment lire le comics. Non, je trouvais c'est un peu trop marketing. Ouais, non, mais carrément. Parce d'accord. Que tu dis, ah, c'est simple, c'est pas,
voilà. Joli beatbox, hein, ouais. J'apprécie l'effort.
Après, moi, ce qui m'embête, mais ça peut faire peut-être une transition avec la de Mass Effect 4 et tout ça, mais c'est qu'il y a pas mal de trucs qui sont arrivés donc avant Mass Effect.
Ouais.
Je pense à la guerre du premier contact, ça va être en français, ouais. Donc au moment où les humains se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls dans l'univers, qui a déjà été traité dans l'univers étendu, donc avec, je crois que c'était un roman. Et on a aussi donc le méchant du 1, il y a aussi tout un pan de qui il est, qui a aussi été traité en fait dans... comment je sais plus si c'est un roman ou un comics, mais en fait
le
ils
roman
ont
et comics.
Les deux, ok. Donc il y a quand même pas mal de ce qui s'est passé avant qui a déjà été traité via support BD, comics, roman.
Y a un projet de film qui tournait plus ou moins autour de Mass Effect. Est-ce que vous avez une impression par rapport à ça?
Pas beaucoup d'infos. Hein.
Non,
c'est les images. C'était très très vague.
À mon avis, ça se fera pas. Mon avis.
Pour les comics, ils sont pas tous disponibles en France, malheureusement.
Ouais.
Ah non, bah non.
Il faut les importer, il faut passer par Amazon ou eBay, ce genre de choses. Très bien. Effectivement, on peut évoquer Mass Effect, ce qui semblerait être Mass Effect 4, même si ça fait, ils ne portent pas vraiment de titre à l'heure actuelle. Ouais. On a vu en gros des images. Je me souviens lors d'une conférence Electronic Arts où en gros c'était regarde, on a éteint les lumières dans le studio de BioWare, mais les écrans sont toujours là et les développeurs et les graphistes et plein de monde travaillent d'arrache-pied.
Et on a vu le nouveau Mako.
Oui.
Intéressant. Voilà. Bon, on n'a pas d'informations. C'est juste que ça sera pas Shepard.
Mais qu'est-ce que vous espérez du coup pour Mass Effect 4?
Franchement, j'ai pas d'espoir. J'attends rien.
C'est
franchement.
C'est optimiste.
Non, j'attends qu'ils utilisent l'univers à fond, mais j'attends rien parce que.
Question bête. Est-ce que t'espères une? Est-ce que t'es partant pour une nouvelle trilogie?
Oui. J'ai très envie de retourner dans cet univers.
Parce que je vous dis, ils espéraient aussi une nouvelle trilogie chez Star Wars, ça s'est mal passé. Hein, mais
ça suffit. Ce n'est pas pareil.
On peut inviter George Lucas si tu veux.
Non mais clairement, une nouvelle trilogie, ce serait super. Mais ce qui est génial en plus, c'est que quand je dis c'est pas Shepard, ça a été annoncé. Hein, c'est que comme on a dit avant, c'est que notre personnage à nous vit à travers les personnages secondaires. Donc s'ils font des personnages secondaires hyper bien, s'ils reprennent l'univers qui est excellent, ça peut être très bien, quoi. Je veux dire, il y a pas de raison qu'ils se foient. Après, comme je dis, moi j'attends rien parce que je préfère rien attendre plutôt que d'être déçu. Voilà.
Une grosse question de collectif. Azura.
Et puis on n'attend rien parce que on va dire le premier cycle est fini en tout cas. C'est un peu comme repartir à zéro.
La boucle est proprement bouclée, voilà. Pour le coup, c'est clair. Il n'y a pas de gros cliffhanger en mode, mais attention, l'épisode 4.
Non.
C'est très, pour le coup, pour une compagnie de jeux vidéo, c'est extrêmement louable de faire ça.
À mon avis, ils pensaient pas à faire Mass Effect 4. À mon avis, ils pensaient pas forcément à faire Mass Effect 4.
Oui, mais Electronic Arts a appelé et t'as dit, Coco, j'ai besoin d'argent.
C'est ça.
La seule chose que j'attends, enfin pas que j'attends, genre c'est pas personnellement, mais c'est qu'avec les miettes d'informations qu'ils ont balancées, ils ont vite fait parler, à ce qui paraît, il y aurait aussi une refonte au niveau du gameplay, et que le gameplay général serait plus tourné vers l'exploration. Donc je sais pas trop...
D'où le Mako.
Voilà, d'où le Mako, ouais.
Non, mais ça peut être très sympa.
Ça peut être très sympa, mais je sais pas, justement, c'est intriguant, disons.
En plus, comme on le disait, ils ont déjà traité ce qui se passait avant, Le cycle, ils l'ont complètement terminé avec Mass Effect 3, donc je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est faire confiance à BioWare pour nous filer un truc cool à se mettre sous la dent avec le 4, parce que je pense que d'un point de vue de joueur, avec tout ce qu'on peut imaginer de l'univers existant, étant donné que ça a déjà été traité soit par des jeux, soit par du contenu alternatif, bah j'ai envie de dire que là maintenant, ils ont toutes les clés en main. C'est très difficile quand on a joué à Mass Effect de savoir ce qu'ils vont nous pondre pour la suite, en fait.
C'est
à concevoir.
Oui, vas-y Azura. Ah,
puis BioWare, c'est un studio qui essaye un tant soit peu d'écouter ses fans, hein, malgré tout. Hein. Dans la limite du possible, bien entendu. Hein.
Ouais.
Ils sont quand même affiliés à Electronic Arts, donc
bon. Oui, bah,
non, mais c'est vrai que, par exemple, BioWare a fait donc Dragon Age, le 1 était très bien, le 2 était horrible.
On en parle pas, il existe.
Voilà. Et ils ont écouté pour faire un 3 qui est pas mauvais, qui est pas mal, qui est pas, enfin, il est sympathique, on dira, beaucoup plus que le 2, mais en tout cas, ils ont écouté les fans. Donc, c'est vrai que ça va dans le sens où ils font un peu attention à ce que les fans veulent. Pourquoi pas? C'est bien.
Bref, question avant de clore cette émission, c'est quand même quelque chose qui m'a interpellé. Pour le coup, on en discutait pendant l'émission. Quand même, on peut choisir donc le sexe de son personnage, mais malgré tout, il y a moins de choix qui sont offerts à female Shepard. Pour autant, quand on regarde la fanbase, quand on observe un peu la fanbase, vraiment le nombre de gens fans de Mass Effect, on se rend quand même compte que au niveau de l'activité sur Internet, il y a quand même plus de femmes qui réagissent que la moyenne. C'est une impression que j'ai. C'est une impression que j'ai eue aussi en faisant entre guillemets le recrutement de cette émission, en disant sur Twitter y a des gens, ils veulent parler de Mass Effect. J'ai remarqué ça. Je veux pas faire de généralisation, c'est peut-être simplement un hasard. Enfin voilà, c'est ce que j'ai observé pour le coup. Est-ce que vous partagez cette observation? Est-ce que vous voyez un commentaire à faire, ou est-ce qu'au contraire c'est juste un hasard?
On voit ça aussi avec Dragon Age, hein. Il y a quand même une fanbase féminine plus installée sur Dragon Age et Mass Effect que sur la plupart des jeux. Moi, je pense que c'est parce que BioWare, c'est un développeur qui est plus inclusive dans ses jeux que ce que peut l'être un autre éditeur, par exemple. Et je pense que je peux pas dire ils s'adressent pas à un public particulier, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus inclusives. Il y avait cet exemple de quand ils ont annoncé donc qu'il y aurait des relations juste homosexuelles en fait dans Mass Effect 3. Il y avait donc la vidéo qui était sortie, qui était sortie donc sur YouTube, et où il y avait forcément les rageux qui étaient là, genre non mais moi ça m'intéresse pas, moi je veux pas jouer un Shepard qui soit gay et tout. Et tous les fans de BioWare qui étaient là en mode mais ça te plaît pas, tu joues pas et tu te casses quoi. Et je pense que je pense qu'ils ont une fanbase, et c'est un studio qui est beaucoup plus inclusif que la plupart des autres, et je pense que ça joue beaucoup.
J'imagine bien les rageux sur les forums. Un papa et une maman.
C'est assez désespérant.
Ça devait être magnifique. Merci à vous quatre d'être venus pour ce 20e numéro du Player Club. On a parlé de Mass Effect avec Azura. Merci d'être venu.
Ah bah j'étais très contente de venir et c'était une super émission, merci de m'avoir accepté.
Un plaisir. Merci aussi à Audrey d'être passée par ici.
Merci à vous.
Merci à Merwin.
Merci beaucoup.
Et merci à The Cat.
Oui, merci à vous.
Fantastique, un plaisir de tous et toutes vous recevoir ici dans le Player Club. Suivez l'émission sur Twitter, @leplayerclub, et merci à vous de l'avoir écouté en direct ou de l'écouter en téléchargement et podcast, là où vous savez. Le Player Club, je vais le dire justement, c'est une émission produite et réalisée par Radio JV. Rendez-vous non pas la semaine prochaine pour un nouveau Player Club, je serai dans Pass le Stick, si on va en parler dans un instant, mais pour en tout cas le rendez-vous à Paris, à l'Apéro Café. Vous allez voir ça sur radiojv.com le 12 février à l'Apéro Café. On pourra se rencontrer, on pourra discuter, on pourra boire, on pourra faire tout ça, ce sera fantastique. Et le 14 pour un Player Club spécial quiz en direct à partir de 17h30, puis pour une soirée sur Twitch à partir de 21h. Ce sera en partie en direct chez nos partenaires le Web Radio Synops, et en partie diffusé sur Twitch. Encore une fois, toutes les informations sont sur radiojv.com, vous allez voir le blog et tout y est, il y a une pétée d'informations, et ça va être un super week-end parce qu'en plus il va y avoir LOL Japon en public, il va y avoir un Player Club spécial quiz, il va y avoir donc un autre Player Club que vous ne pourrez pas entendre mais qui sera enregistré pour le 16 et qui sera sur le doublage et le jeu vidéo, qui sera donc diffusé le lundi, qui sera en différé exceptionnellement, mais qui sera super intéressant et qui sera de super bonne qualité son parce qu'on sera en condition studio. Et puis voilà, eux aussi sont en condition studio, ce sont nos amis de Pass le Stick. Bonsoir Kokobé.
Comment ça tu viens la semaine prochaine? Je suis pas au courant.
C'est vrai, c'est vrai.
Moi je veux pas de suite chez moi.
Si vous ne m'acceptez pas, vous êtes tous virés, vous devez partir sur Move.
Ok, je veux les indemnités.
Vous devrez tous partir sur Move. Et ça, je pense pas que vous voudrez.
Voilà. Non pas Slastic, actualité jeux vidéo bien sûr, mais de quoi allez-vous parler ce soir?
Eh bien, on va parler un petit peu de la New 3DS qu'on a eu l'occasion de tester longuement, et puis on va parler de The Next Penelope également, puisque c'est un jeu que nous avons pré-testé, puisque le jeu est en pré-alpha actuellement.
On a Early Access.
Voilà, puis on va parler un petit peu de l'avenir. Est-ce que toutes les licences ne vont pas finir en free-to-play finalement? Voilà.
Oh là là, c'est inquiétant tout ça.
Ah, bon, inquiétude.
J'ai hâte
qu'on
vous écoute
ici.
Eh bien, écoutez, bonne émission.
Merci à toi.
Ciao.